cette année, on va prendre la suite avec, pas en se focalisant sur une période de 2 mois et quelques, mais sur toute une décennie, donc la décennie 70, même si on verra, j'évoquerai tout à l'heure les problèmes de périodisation, délimiter ce qu'il faut entendre par année 70 et une question importante qu'il faudra se poser. Alors, c'est une période qui est intéressante pour l'étude des mouvements sociaux parce qu'elle a été particulièrement fertile en protestations collectives de toutes sortes. C'est en effet l'époque qui voit surgir ou ressurgir toute une série de mouvements sociaux importants, une période pendant laquelle l'actualité est fréquemment agitée par des épisodes protestataires et pour... en citer quelques-uns de ces mouvements au préalable, on peut évoquer le mouvement féministe, l'écologie, le régionalisme, le mouvement homosexuel, l'antimilitarisme, les luttes des immigrés, ou encore celles des prisonniers, ou également tout ce qui, et c'est une fraction importante de ces luttes, tous les combats qui se mènent dans les entreprises, notamment autour de la question, mais pas seulement, de l'autogestion. Donc ça va être l'ensemble de ces luttes dont il sera question cette année dans le cours. Alors, ce sont des mobilisations qui s'inscrivent dans une certaine continuité avec mai 68, même si la nature et la logique de cette continuité devra appeler là encore un examen attentif. Et donc pour le cours d'aujourd'hui, c'est un peu comme dans les anciennes séries télévisées où on faisait un rappel des épisodes précédents, pour avant de passer à l'épisode du moment. Et donc ça va être un des enjeux pour aujourd'hui de retrouver certains de nos protagonistes qu'on avait perdu de vue depuis un an, les retrouver là où on les avait laissés, c'est-à-dire dans l'immédiat après mai 68, avec pour chacun une profonde remise en cause de leur perception d'eux-mêmes, de leur définition de leur rôle politique, de leur perception de leur marge d'action et de leur position dans le jeu politique. Alors tout à l'heure, en troisième partie du cours d'aujourd'hui, je ferai ce rappel des épisodes précédents et je recadrerai un peu la situation dans laquelle se trouvent les différents protagonistes, tant du côté de l'opposition que du côté du gouvernement, au moment où s'ouvre donc cette séquence. Donc il faudra... faire un temps de contextualisation à la fois politique, bien évidemment, mais également idéologique et économique de la période que je souhaite couvrir dans le cours. Alors, comme dans le cours aussi de l'année précédente, il y aura 2 enjeux dans celui de cette année. À la fois, premier plan, opérer un récit factuel, revenir sur la réalité des mouvements sociaux qui se sont imposés dans cette période. Mais aussi, c'est le second plan, se confronter au cadre d'analyse sociologique qui existe de ces mouvements, donc tout ce qui relève des modèles d'interprétation, qui pour certains, là aussi, ont été produits sur le moment même, pendant les années 70, en même temps que ces luttes se menaient, étaient actives, mais également l'éclairage que des travaux ultérieurs, qui ont été conduits depuis... à la fois par les sociologues, mais aussi et de plus en plus par les historiens, ce qui est aussi un signe du temps qui passe, comment on réévalue, on reconsidère cet ensemble de mouvements sociaux avec davantage de recul. Là aussi, comme pour mai 68, j'y avais beaucoup insisté, l'intelligibilité de la période, elle a progressé au fur et à mesure que les travaux, à la fois les travaux étaient menés, davantage de connaissances étaient produites sur la question, mais aussi à mesure que les enjeux directs que portaient ces mobilisations se sont un peu estompés. On avait vu pour mai 68, et on retrouve la même chose pour les mobilisations des années 70, le fait que beaucoup d'observateurs et d'analystes étaient directement en prise avec ces mouvements. Ils avaient plus ou moins de sympathie pour certains mouvements ou pour certains courants politiques qui les animaient. Ils pouvaient être eux-mêmes militants ou sympathisants des organisations qui les menaient. Et évidemment, ce n'est pas le même rapport quand on est sympathisant d'une cause, d'écrire sur cette cause dans les années 70, et puis quand on est un historien ou un sociologue qui écrit 40 ans après, qui n'a pas connu ces événements, ou qui était tout petit au moment où, où ils se déroulaient, bah, d'écrire, bon, on a moins d'enjeux ou de comptes à régler avec cette période lorsqu'on ne l'a pas directement connue. Hein. Joue également un rôle important le fait qu'avec les années qui passent, là aussi c'est une chose qu'on avait vue pour mai 68, les archives sont davantage disponibles. Il y a à la fois des gens qui sont davantage prêts à parler parce qu'ils sont, ils ont davantage de recul, c'est plus quelque chose de sensible pour eux. Et puis il y a des archives qui sont disponibles, des archives politiques, hein, je pense notamment aux archives du Parti communiste qui se sont ouvertes progressivement depuis quelques années. Des archives militantes, notamment beaucoup d'organisations ont déposé leurs archives à la BDIC, qui est une bibliothèque de documentation internationale et contemporaine qui est située à Nanterre. Hein, et voilà, beaucoup de groupes, de groupuscules, d'associations, d'organisations ont déposé leurs archives à cet endroit pour que les historiens puissent y travailler. Par exemple, moi j'avais travaillé sur les archives du mouvement des travailleurs arabes, qui était un groupe très actif dans les, la première moitié des années 70, où on retrouve leurs rapports internes, leurs comptes rendus de réunion, leurs tracts. Donc ça, c'est une matière importante. Et puis, on trouve des archives publiques davantage accessibles aux historiens, et notamment, mais pas seulement, des archives policières. Hein, j'avais déjà évoqué ça l'année dernière. Donc moi je vais me baser aussi, mon propos il sera largement basé sur des travaux de collègues sociologues et historiens que je citerai à chaque fois que ça sera pertinent, mais vous pouvez trouver, ou bientôt vous trouverez sur le site de l'UP, la bibliographie, elle est déjà mise en ligne, voilà, merci Evelyne, une bibliographie des principales références qui, pour le cours. Et puis, je m'appuierai aussi sur mes propres travaux lorsqu'ils concernent cette période. Donc, j'ai évoqué le travail sur le mouvement des travailleurs arabes. Si j'avais consulté leurs archives, c'était dans le cadre du travail que je faisais sur les luttes des immigrés, et spécialement la double peine, dont j'avais déjà parlé la première année que je faisais cours, il y a 2 ans. Et puis également, mon travail sur le mouvement des prostituées, auquel j'avais consacré une séance, là aussi, il y a 2 ans. Les cours sont toujours en ligne. Alors, quelques mots aussi en introduction sur la structure du cours et sur le contenu des 5 séances. J'ai été obligé, au cours de la préparation, de modifier quelque peu la structure du cours, pas son contenu. Hein. C'est-à-dire, vous allez trouver tous les éléments que j'avais prévu de vous livrer, mais dans un ordre un peu différent. Donc, il n'y a pas de remise en cause fondamentale du propos. Simplement, la séance d'aujourd'hui sera plus une séance d'introduction et de contextualisation du propos. Dans les 2 prochaines séances, dans celles qui vont suivre, je présenterai les différents mouvements sociaux marquants des années 70. Hein. Alors, là aussi, je vais vous les présenter de manière les uns après les autres, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode, mais qui est pour moi la plus commode. Hein. À chaque fois, je le soulignerai, il y a beaucoup d'interdépendance, de liens entre les différents mouvements. Par exemple, entre le mouvement homosexuel et le mouvement féministe, il y a des liens qui sont évidents et très forts. Pour avoir malgré tout un propos qui soit suffisamment clair, j'ai préféré séparer chacun des mouvements ou chacune des causes générales. Hein. Ça a été, à mon sens, la condition d'une relative clarté. Et puis, les 2 derniers cours, comme l'an passé, seront un peu plus analytiques, au sens où on quittera davantage le niveau factuel pour s'arrêter sur les différents types d'interprétations de cette séquence historique qui ont été proposées par les sociologues et les historiens, pour les présenter et puis pour les discuter. Et puis, dans le dernier cours, je proposerai une lecture de cette vague contestataire et aussi de son déclin à partir des rapports entre mouvements sociaux et partis politiques. Et ce faisant, j'essayerai d'éclairer la période des années 70, mais aussi ce qui la suit. Donc, pour le dire un peu simplement, par rapport au plan qui avait été annoncé, la partie théorique de la 3e séance sera déplacée dans la 4e séance, et le propos de la 4e séance sera ramassé dans la dernière séance, la cinquième, le 2 février. Alors, premier point que je voudrais évoquer aujourd'hui, pourquoi parler des années 70 hein, et je voudrais notamment évoquer, m'expliquer un peu sur son titre, hein, les années 70, un âge d'or des luttes, avec un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, il est important parce que il s'agit de ne pas prendre a priori comme un donné, comme allant de soi, cette idée assez répandue que les années 70 auraient été une période beaucoup plus combative que celle qui a suivi ou que la période actuelle. Hein. Beaucoup de gens ont une certaine nostalgie de cette période des années 70 où il y avait davantage de combativité dans tout un tas de secteurs, notamment dans la vie économique. C'est des discours qu'on entend assez couramment aujourd'hui, qu'il nous faudrait un mai 68, ce avec quoi je ne suis pas totalement en désaccord. Il y a l'idée qu'aujourd'hui régnerait davantage l'égoïsme, l'individualisme, que c'est plus difficile de mobiliser les gens, qu'il y a moins de monde dans les manifestations, ce qui semble être faux, ce qui est vrai à la lumière des éclairages sociologiques, c'est-à-dire qu'on a davantage... ce que montrent les analyses quantitatives et ce qui amène à nuancer déjà un petit peu cette idée d'un âge d'or des luttes, on a depuis les années 80 davantage de manifestations que dans les années 70, mais elles rassemblent moins de monde. Bon. Période un peu regard un peu plus nuancé qu'invite la sociologie contemporaine à porter sur ce supposé âge d'or. Alors, ce sont ces représentations un peu mythifiées et enchantées des années 70 comme un âge d'or des luttes que je voudrais examiner dans le cours. Parce que, donc, je viens d'en livrer un premier exemple, hein, une démarche un peu plus rigoureuse du point de vue historique, amène à nuancer souvent cette représentation. Et puis, parce que, plutôt qu'une représentation mythifiée, il vaut la peine d'aller y voir, d'aller voir en quoi consistait, quelle était la portée, l'audience et l'efficacité de ces luttes des années 70. Alors, pour autant, je voudrais m'y arrêter un peu, c'est pas forcément facile d'échapper à cet enchantement ou cette mythification de cette période, parce que c'est une tendance qu'on retrouve à la fois chez ceux qui ont connu la période et chez ceux qui ne l'ont pas connue, ou qui étaient trop jeunes pour en avoir un véritable souvenir. Alors, pour des raisons souvent compréhensibles, hein, pour ceux qui ont connu cette période et qui ont participé aux mouvements sociaux que j'évoquerai, la tendance à enchanter cette période, à la considérer avec nostalgie, ça s'explique souvent par le fait, tout simplement, que ces personnes étaient plus jeunes elles-mêmes, elles étaient un peu plus dynamiques et combatives, et elles le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, avec des déceptions ou avec... tout simplement quelques années en plus, parfois des kilos en plus, des cheveux blancs. Et donc, on a tendance à percevoir la réalité d'aujourd'hui à travers, avec un regard un peu biaisé, parce que l'époque où on était un peu plus jeune, on était un peu plus dynamique, apparaît évidemment comme meilleur. Personne ne se trouve... n'y échappe, et moi-même quand on parle du mouvement de Vaquet en 86, etc., etc. Bon. Donc, c'est aussi un biais normal dont il faut être conscient. Mais on trouve aussi une tendance à mythifier cette période chez les jeunes générations, mais là peut-être avec davantage d'ambivalence. Je pense qu'une des expressions de cette ambivalence, c'est quand il y a eu le mouvement contre le CPE en 2006, les étudiants étaient très susceptibles dès lors qu'on leur parlait de mai 68 parce qu'ils ne voulaient pas être évalués à l'aune d'une grande référence, d'une référence un peu écrasante, et que ils avaient leur lutte à eux qui avait sa dignité, ses logiques propres, qui avait son autonomie à laquelle il fallait pas nécessairement et qu'il ne fallait pas nécessairement rapporter à un précédent aussi glorieux soit-il. Mais dans le même temps, à la fois les célébrations du 40e anniversaire de mai 68, où je pense au succès de certains films, par exemple Le Péril Jeune, montrent que, y compris chez les jeunes générations, il y a un rapport un peu enchanté, mythifié à cette période, ou en parler davantage de politique, où c'était davantage valorisé d'être militant, alors que un collègue de l'UP me disait que il y a quelques dans cette époque-là qu'il avait bien connu, être militant était valorisant et efficace pour draguer, alors que aujourd'hui ça l'était moins, ça l'est moins. Voilà. On a les références qu'on peut. Hein, chacun évalue la réalité avec. Peut-être que là aussi il y a un biais. C'est lui qui. Peut-être moins séduisant avec l'âge qui passe. Bon. Je ne donnerai pas le nom. Hein. Et puis on a aussi une ambivalence et ce passé comme cette période comme particulièrement marquée par différentes luttes. Cette image, on la retrouve y compris chez des individus conservateurs évoquer les années 70, mais pour mieux affirmer que c'est une période révolue. Hein, que voilà, on n'est plus dans les années 70, donc faut arrêter de rêver, faut se plier à la réalité économique. Voilà. Hein. Et on trouve des discours qui vont porter l'accent là-dessus, et je pense qu'en témoigne une expression de Françoise Giroux qui a donné son titre à un film, qui là aussi véhicule une image enchantée en même temps qu'ambiguë. Des années 70, qui s'appelle la parenthèse enchantée. Hein. Alors, chez Françoise Giroud, ça a désigné la période qui va de la légalisation de la contraception puis de l'avortement jusqu'à l'apparition du sida, donc qui serait une période de libéralisation des mœurs, voire de liberté sexuelle tous azimuts. Et on voit bien l'enjeu de l'expression. Hein. Parler de parenthèse, ça veut dire que c'est fermé. Hein. Alors, il y en a qui en ont profité, tant mieux pour eux. C'est pour elle, mais ceux qui viennent après, faut pas y compter. Voilà, c'est fini. Hein, tant pis pour vous, hein, vous êtes nés trop tard. Alors, aussi un aspect intéressant de cette ambivalence devant cette période, c'est qu'elle affecte différents secteurs de la vie sociale. Moi, je vais me centrer sur les mouvements sociaux, mais on peut remarquer ça à d'autres niveaux. Hein. Les 70s, pour utiliser une expression courante, aussi sur le plan culturel, à la fois, ça représente un moment d'effervescence créatrice qui a vu émerger des formes artistiques inédites et qui font toujours référence. Hein. Alors, par exemple, je pense à l'art contemporain des années 70 reste une référence par toutes les transgressions, les provocations qu'il a fait. Et selon certains, les artistes contemporains qui ont suivi n'ont pu que reproduire le geste de la provocation, mais sur le mode du simili, hein, sans aller aussi loin. Je pense à certaines réussites, certaines références architecturales, comme Beaubourg, hein, qui reste une référence, qui a fait controverse, mais qui finalement a pas si mal vieilli que ça. Donc, sur le plan culturel, des choses vraiment une effervescence créatrice, mais aussi l'art ringardiste des années 70. À chaque fois qu'on vous ressort une émission télévisée de cette période-là, tout le monde rigole parce qu'on est dans le kitsch absolu, on est dans le ridicule achevé. Certaines modes vestimentaires ou capillaires de l'époque sont absolument laissent aujourd'hui hilar. Sur le plan en matière de mœurs, je l'ai évoqué à l'instant, la période aurait été marquée par un ample mouvement de libéralisation des mœurs et de la sexualité, contraception, avortement, davantage de reconnaissance sociale de l'homosexualité, mais aussi, on a tout un discours, et vous le connaissez, sur le fait que cette période de libéralisation aurait fragilisé des institutions structurantes comme la famille, aurait fragilisé des rapports sociaux et notamment des rapports d'autorité, eux aussi structurants sur le plan psychologique, et donc il y aurait une espèce de revers de la médaille. Les assises psychologiques du vivre ensemble auraient été fragilisées par cette licence érigée en art de vivre. Ambivalence aussi en ce qui concerne les modes de vie. Hein, les années 70 ont vu émerger et s'imposer la critique écologiste, mais cette critique écologiste n'a pas réussi à interrompre ni même à freiner une exploitation forcenée des ressources naturelles. dont on trouve des exemples dans le passage au nucléaire, dans l'urbanisation forcenée, hein, à Lyon on connaît ça, ça a été particulièrement vif avec le maire Louis Pradel, bon, à qui on doit ses chefs-d'œuvre que sont la gare, le centre d'échange de Perrache, le centre commercial de la Part-Dieu, et qui envisageait de faire passer une autoroute en bord de Saône. Hein, d'où son surnom, bien connu, Zizi Béton. Zizi à cause de ses prises de position pendant le mouvement des prostituées, et Béton pour la marque qu'il aura laissée sur la ville. Bon, c'est aussi le moment des catastrophes écologiques, hein, Céveso, etc., la Mococadise, bon, j'en passe. Et puis le culte de l'automobile, hein, voilà, autre expression de ce consumérisme forcené. Et puis ambivalence aussi, sur le plan économique, cette fois illustrée par une coupure dans les années 70, entre les bonnes années 70, celles qui sont avant 74, donc avant le choc pétrolier, hein, sur lequel je reviendrai, les années 70 qui seraient la fin des Trente Glorieuses, hein, qui est une expression de l'économiste Jean Fourastier, qui désignait ainsi la période de croissance économique qui va donc de la libération, de la reconstruction qui suit la Seconde Guerre mondiale jusqu'à donc ce premier choc pétrolier. Hein. Et puis donc c'est les bonnes années 70 au niveau économique avant 74, et puis à partir de 74 les mauvaises années, celles qui sont marquées par la crise économique, le début du chômage de masse et tout un tas de secteurs économiques qui rentrent en crise, notamment la sidérurgie à la fin des années 70, enfin, tout le secteur industriel qui est durablement marqué par la crise. Donc voilà, une ambivalence aussi qui imprègne notre regard a posteriori sur les années 70, et puis ce qui contribue aussi à tronquer le regard et à enchanter, là pour le coup, les années 70 a posteriori, c'est la comparaison avec ce qui suit. Or, c'est une période, les années 70, qui apparaissent comme un peu extravagante et idéaliste, mais où tout semblait plus simple et plus joyeux, et où l'espace des possibles pouvait paraître encore largement ouvert. Et la nostalgie que suscite l'évocation des années 70, elle trouve aussi une part de son fondement dans la comparaison avec celle qui l'a suivie, les années 80, que un essai récent, le livre de François Cusset, qui a eu pas mal d'écho, qui est sorti en 2006 à La Découverte, hein, qui s'appelle « La décennie », dans ce bouquin, donc concentré sur les années 80, François Cusset, qui est un philosophe, décrit cette période qui suit les années 70 comme cauchemardesque. Et donc les années 80, ça serait par contraste les années de la résignation contre l'espoir, les années de la médiocrité triomphante contre la créativité débridée et les années de l'individualisme-égoïsme, hein, on parle des années fric pour les années 80, contre l'esprit du collectif, hein, donc le moment de la trahison de tous les idéaux qui étaient portés par les années 70. Et Cusset se livre à l'exercice un peu obligé qu'on avait évoqué l'année dernière de la trahison par les 68ards, et on avait vu que c'était plus compliqué que ça, c'était essentiellement des leaders 68ards qui s'étaient reconvertis et qui avaient renié leurs idéaux de jeunesse pour faire carrière dans les affaires, la politique ou les médias, hein. Mais on insiste sur ce qui tranche avec les années 70. Alors donc l'enjeu, ça sera pour nous de, là aussi c'est cette vision par contraste, hein, entre les années 70 et les années 80, un des enjeux, ça sera de revenir à la réalité, à la fois sociale, politique, idéologique et économique de la période, et pas la reconstruire a posteriori à l'aune de ce qui l'a suivi. On va faire comme si on se trouvait à la place des acteurs, des militants des différents mouvements sociaux des années 70, au moment où ils agissent. Hein. Éviter la relecture a posteriori de ce qui s'est passé. Hein. Alors, ce qui est toujours un exercice intellectuellement un peu délicat, parce que nous, on sait, hein, 30 ou 40 ans après, ce qui s'est passé après. Hein. Mais il faut adopter davantage la posture de l'événement au moment où il se passe. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est le problème de la périodisation. Le découpage d'une séquence dans le flux ininterrompu de l'histoire, c'est un préalable indispensable, mais qui est toujours délicat et risqué pour tout historien. Pourquoi faire débuter le récit à telle date et l'interrompre à telle autre? Quelles vont être les bornes temporelles entre lesquelles va se déployer le récit de la conflictualité sociale dans les années 70? Alors évidemment, j'aurais pu me baser sur une délimitation un peu naturelle, on va dire, ou prédécoupée. Ça commencerait les années 70, le 1er janvier 70, et ça s'achèverait le 31 décembre 79. Mais bon, on voit que ça serait pas très utile intellectuellement. Les flux historiques ne sont pas réductibles à des dates fixes de cet ordre. Alors, les bornes temporelles que j'ai choisi d'adopter, d'une part débuter dans la foulée de mai 68, prendre mai 68 comme point de départ, et terminer le récit le 10 mai 81, qui est donc la date de l'élection de François Mitterrand à la présidentielle. Alors, je reviendrai un peu plus loin sur les motivations de ce choix, mais je vais évoquer d'autres découpages qui auraient été possibles et qui auraient été solidaires d'autres angles d'approche. Si je prends la séquence 68-81, c'est parce que, je l'ai dit, et je le développerai dans la dernière séance, parce que je veux faire une lecture politique de cette période historique. Alors, il y aurait d'autres angles d'approche. Et par exemple, un choix qui aurait donné la priorité aux enjeux économiques aurait pu faire s'achever cette séquence en automne 73 ou en 74, qui sont vraiment le début d'une crise mondiale qui va profondément et durablement transformer la situation politique et sociale. Et qui notamment, c'est important si on veut s'intéresser aux mouvements sociaux, parce que cette crise va durablement affaiblir la position du monde du travail dans les rapports de force. Alors, l'automne 73, c'est quoi? C'est la date du choc pétrolier, qui est une conséquence, ça me permet aussi de contextualiser, de rappeler un certain nombre d'événements importants. Choc pétrolier qui est une conséquence de la guerre du Kippour, suite consécutive à l'attaque d'Israël par l'Égypte et la Syrie. Et donc les pays arabes producteurs de pétrole décident un embargo de leurs exportations en direction des pays occidentaux qui soutiennent Israël. Donc la conséquence immédiate, vu que ces pays occidentaux dépendent en large partie du pétrole arabe, c'est que ça fait augmenter les prix très rapidement du pétrole. Les prix du pétrole sont multipliés par 4 entre septembre et décembre 1973. Et donc la croissance des années précédentes, qui était basée sur un pétrole bon marché, elle est stoppée assez brutalement. Alors, par exemple, ça va se traduire par la limitation de ce qui était une technologie innovante, qui était l'avion Concorde, qui est une pompe à pétrole effroyable, alors, qui est le supersonique, qui permet d'aller vite, mais c'est plus possible d'envisager des avions autant consommateurs de pétrole. Donc on va interrompre, on va en garder, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se crache il y a quelques années. On va garder ça par fierté aussi nationale, mais on n'aura pas autant de Concorde que ce qui a été prévu de construire. Et puis ça va rappeler des souvenirs à certains, des slogans publicitaires comme « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées », comme « La chasse au gaspillage », c'est-à-dire faire des économies d'énergie, parce que le pétrole coûte cher. Et progressivement, toute l'économie va rentrer en crise, un chômage massif va émerger qui ne sera jamais véritablement jugulé. Alors par exemple, pour donner des indicateurs, l'inflation elle est de 15,2% en 1974, et au début de 1974, toujours, le nombre de chômeurs était de 450 000, 2 ans plus tard, il est de 900 000. Donc vous voyez, en 2 ans, ça double. Donc voilà, c'est la fin d'une époque au niveau économique, et l'ambiance passe de la confiance en l'avenir à la morosité, à la rigueur, au pessimisme. Alors c'est un découpage qui ne m'a pas semblé judicieux, en premier lieu parce qu'il me semble trop objectiviste. C'est-à-dire qu'il se fonde sur des indicateurs qui ont effectivement une valeur forte, probante, des indicateurs économiques, le nombre de chômeurs, tout ça, c'est des indicateurs qui sont ils sont intéressants, ou le taux de croissance, hein. Le problème, c'est que on oublie les la face subjective des processus, c'est-à-dire les perceptions des acteurs. Et lorsque la crise démarre, la perception des acteurs, de bon nombre d'entre eux, c'est que c'est une crise passagère, comme le capitalisme en a connu de longue date, et que bah, ça ne va pas durer, voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais progressivement, ça va revenir. Hein. Et donc, de fait, les acteurs, et spécialement ceux qui sont engagés dans des mouvements sociaux, ont continué à agir et à revendiquer les années suivantes en fonction de leur perception antérieure, hein, avec toujours la perception d'une, croissance qui allait revenir. Et c'est seulement à la fin de la décennie que le sentiment a commencé à s'imposer qu'on était rentré durablement dans une période économiquement plus difficile. Et puis, il y a une part d'arbitraire à prendre comme date de fin de séquence le premier choc pétrolier, parce que la croissance économique, ben en fait, elle avait déjà commencé à ralentir, le chômage avait déjà commencé à augmenter, même si c'était de manière relativement douce par rapport à ce qui allait suivre, hein. En 1967, on crée la NPE, ce qui est aussi le signe que, au niveau de l'emploi, ça devient un peu plus difficile. Donc, déjà, la croissance économique avait commencé à se ralentir dès la fin des années 60. Alors, un autre découpage, d'ordre, on va dire, davantage idéologique ou intellectuel, interromprait la séquence en 75, avec la dénonciation du totalitarisme communiste par les nouveaux philosophes à l'occasion de la traduction du bouquin de Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag. C'est par exemple ce que racontait Luc Ferry dans un cours que je suivais à l'IEP de Lyon dans les années 86-87, où il nous disait que les années 70 s'arrêtent en 75. Pourquoi 75 ? Ben parce que de cette période, d'après le discrédit des attentes révolutionnaires portées par mai 68 et le début d'une conversion aux inexorables réalités de l'économie de marché. Et selon Ferry, c'est un tournant philosophique qui a des conséquences importantes pour la manière de pour la vie économique et sociale et notamment pour les mouvements sociaux. Selon lui, on passerait à partir de cette période de la philosophie anti-humaniste de la mort de l'homme, c'est-à-dire principalement la philosophie structuraliste, avec des auteurs comme Lévi-Strauss, Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Lacan, qui révoquent d'une certaine manière la figure du sujet et qui proclament que ce qu'on considère comme l'homme, dans la philosophie humaniste, en fait, il est agi par des structures, hein, et qu'il n'est pas le maître de lui-même. Et que ce qui est important et ce qui le fait agir, ce sont des structures. Les structures de l'inconscient, chez Lacan, chez Michel Foucault, c'est l'ordre du discours, ce sont les structures de la pensée. Chez Althusser, ce sont les structures économiques. Bon. Donc une philosophie qui place la figure de l'homme comme tout à fait secondaire, au profit de la structure. Et à partir de 75, selon Luc Ferry, on verrait un retour à l'humanisme ancien, à la figure du sujet, ce qui se traduirait par un certain nombre de thématiques qui vont émerger dans le discours politique, la figure des droits de l'homme, la figure du militantisme humanitaire, hein, avec des organisations, des actions humanitaires autour de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, des choses comme ça. Et puis, solidaire de ça, donc, agent de cette critique, et donc voilà, les droits de l'homme contre le totalitarisme du Goulag. Hein, vous voyez le lien de l'articulation philosophie et politique. Et qui donc est le moment de l'apparition de ceux qu'on va qualifier de nouveaux philosophes, donc des gens qui, pour la plupart, sont passés par le maoïsme ou par l'extrême gauche plus largement, et qui vont renier, révoquer la figure du marxisme philosophique. Alors ça va être des gens comme Finkielkraut, André Glucksmann, Bernard Henri Lévy, encore que lui, Son engagement gauchiste a été très, très light, on va dire. Et ce sont des gens qui vont imposer l'idée que l'utopie, spécialement sous sa forme marxiste, conduit inexorablement à la catastrophe et à la barbarie. Et de fait, c'est notamment présent chez Glucksmann, le goulag était déjà présent chez Marx. Et donc il ne faut surtout pas rêver à changer la société et à la rendre plus juste, parce que c'est déjà s'engager dans la voie du génocide. D'ailleurs, voyez ce qui se passe au Cambodge. Et c'est une démarche alors qui bénéficie d'une couverture, alors, qui bénéficie du coup de pub de l'occasion de la traduction en français de Solzhenitsyn, hein, l'archipel du Goulag, et puis qui bénéficie d'une couverture médiatique très importante, notamment c'est un numéro du magazine littéraire qui annonce les nouveaux philosophes. On a BHL et sa chemise à la télé, apostrophe. Donc voilà, il y a aussi, et c'est important de le relever, une démarche éditoriale derrière ça. Hein, c'est pas simplement quelque chose uniquement philosophique. Ce sont d'ailleurs des gens qui sont à l'entrecroisement de la philosophie et du journalisme. Hein. Ce ne sont pas, pour parler comme Bourdieu, des gens qui occupent les positions les plus autonomes au sein du champ philosophique. Au contraire, ce sont des gens qui incarnent le pôle mondain, ou le pôle le plus hétéronome, le plus soumis aux logiques éditoriales de faire des coups, des best-sellers, et ça marche, et qui sont le plus dépendants de l'écho médiatique à leur production. Alors c'est aussi quelque chose qui arrive dans un contexte, les nouveaux philosophes et la critique du marxisme à partir du milieu des années 70, qui arrive dans un contexte politique bien particulier, qui est le début des tensions entre le Parti communiste et le Parti socialiste à l'intérieur de l'Union de la gauche. Hein, le Parti communiste, le PS et les radicaux de gauche ont signé en 72 un programme commun de gouvernement. Ce qui explique, j'y reviendrai, qu'il n'y ait qu'un seul candidat de gauche hors extrême gauche en 74 à la présidentielle. Hein, c'est, le PC ne présente pas de candidat, c'est Mitterrand qui est le seul candidat. Simplement, des tensions commencent à apparaître et qui vont être beaucoup plus fortes et qui vont conduire à la rupture du programme commun de gouvernement en 78. Et beaucoup de rejettent sur le Parti communiste les tensions et l'échec futur du programme commun. Et donc, ce qui va amener le Parti communiste à se rédire, alors qu'il avait plutôt essayé de s'ouvrir depuis le début de la décennie, et taper sur le marxisme au niveau philosophique, c'est aussi, ça rentre en écho avec des enjeux de compétition à l'intérieur de la gauche. Ce qui fait le succès des nouveaux philosophes, y compris au sein de la gauche non communiste. Une remarque aussi en passant, 75, c'est la date où se termine le bouquin que j'avais évoqué l'année dernière, Génération de Hamon et Rothman. Voilà, c'est l'idée que ça se termine à ce moment-là. Alors eux, ils prennent comme symbole la fin du magazine actuel, qui est pas, me semble pas, une borne sociologique suffisamment solide pour... On s'arrête là. Il y a également quelque chose qui pose problème dans la dénonciation du goulag, c'est le fait que Solzhenitsyn n'a pas été le premier, et que notamment les trotskistes, qui ont été parmi les premiers à subir les effets du stalinisme, avaient déjà eux-mêmes raconté ce qui se passait en Sibérie. Hein. Aussi, un autre élément du contexte, mais là plus international, qui agit, c'est 76, c'est la mort de Mao Tse-tung. Hein? Alors, même si le maoïsme en France était déjà délité depuis plusieurs années, j'évoquerai les groupuscules maoïstes, mais la gauche prolétarienne s'autodissout en 73, Vive la Révolution, qui était un autre courant maoïste, s'est dissout en 71, reste que la mort de Mao, hein, le grand timonier, qu'accompagne la diffusion de témoignages sur les atrocités consécutives à la révolution culturelle à la fin des années 60, font que cette autre figure alternative à l'Union soviétique du communisme s'effondre et est largement disqualifié. Et puis de même, l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges au Cambodge, et puis le début du génocide, qui là aussi est assez vite connu, contribue à mettre le projet communiste en crise, hein, mais le projet communiste plus largement que le PCF, évidemment. Autre élément, 75, c'est la victoire du Vietnam du Nord contre le Vietnam du Sud et les Américains. Donc les Américains sont mis en défaite, les communistes gagnent. C'est une cinglante défaite pour les États-Unis, évidemment, pour la première puissance militaire. Mais le fait que les années suivantes, des Vietnamiens quittent leur pays sur des embarcations de fortune pour... parce que c'est pas aussi rose que ça, donc c'est toute la question des boat people, hein, la France va en accueillir un certain nombre, ça met en doute la légitimité du nouveau régime de type communiste. Et puis c'est vrai qu'au niveau intellectuel, il y a un certain nombre de figures qui s'estompent, hein, à partir de la fin de la décennie, notamment Sartre meurt en 80, il devient aveugle au milieu des années 70, il est de plus en plus faible. Quelqu'un comme Althusser, alors lui, il meurt pas tout de suite, mais il tue sa femme en 80, donc dans un moment de folie, parce que, diront les psychiatres, il sera acquitté pour ça. Mais bon, c'est la fin d'Althusser, philosophe. Une autre figure importante qui est Foucault, en 76, il publie La volonté de savoir, qui est son premier tome de l'histoire de la sexualité. L'année précédente, il avait publié Surveiller et punir, qui était un livre sur les prisons. Et ce sont deux livres où la notion de discipline des comportements, comment des structures façonnent et rendent dociles les corps des individus. Donc c'était toujours Foucault structuraliste, je dirais. Il publie pas de bouquin pendant 8 ans. Et en 84, lorsqu'il publie deux autres ouvrages, eh ben, ce qui l'intéresse, c'est le sujet. Comment on devient sujet de ses pratiques, notamment au travers de la sexualité. Et là, il quitte, on va dire, le 18e et le 19e siècle, qui étaient ses périodes de prédilection jusqu'à présent, pour l'Antiquité grecque et romaine. Donc vous voyez qu'il y a un basculement aussi, on passe du structuralisme chez Foucault à une perspective plus subjectiviste. Hein. Alors ça reste de la philosophie intéressante, contrairement à ceux que j'ai cités, mais on voit qu'il y a quand même un basculement dans les préoccupations d'une des figures de proue du structuralisme. Dans cette période. Et puis, c'est pour ça aussi que je suis en désaccord avec Pucet lorsqu'il dit que les années 80, c'est un vide intellectuel. La fin des années 70 et les années 80, c'est la période où la sociologie de Bourdieu tourne à plein régime et la plus productive. Et voilà, c'est aussi mon attachement à cette sociologie qui fait que je m'exprime comme ça. Mais je pense qu'on ne peut pas révoquer non plus d'autres choses qui se font et qui sont importantes dans les années 80. Ce n'est pas un désert intellectuel qui succéderait à une période de créativité tous azimuts. Des conneries ont aussi été écrites dans les années 70, pour le dire un peu crûment. Alors, dernière borne sur laquelle pourrait s'achever cette séquence, ça serait 1979, c'est ce qu'a retenu Xavier Vignat dans son livre L'insubordination ouvrière dans les années 68, hein, c'est un auteur dont j'avais pas mal parlé l'année dernière. Alors, il choisit 79, donc dans son ouvrage qui est consacré aux luttes dans le monde du travail qui suivent 68, 79 parce que c'est la défaite des sidérurgistes lorrains. C'est-à-dire que après une période de forte combativité dans les entreprises, eh bien la crise économique s'est quand même durablement installée, des secteurs importants de l'industrie entrent en crise et les mouvements de travailleurs, de salariés deviennent davantage défensifs. Hein. Autant dans le début des années 70, on va avoir beaucoup de créativité, hein, j'évoquerai l'expérience autogestionnaire de l'IP, autant la fin des années 70, c'est pour sauver l'emploi que les travailleurs se mobilisent. Hein. Donc on arrive à une phase beaucoup plus défensive. Et ça va notamment se traduire au niveau des, en termes de statistiques de nombre de grèves, on assiste à une chute qui commence et qui ne va pas s'arrêter à la fin des années 70. Et selon Vignat, après la défaite des sidérurgistes lorrains, Le monde du travail et ses organisations, principalement syndicales, vont reporter leurs espoirs non plus dans la contestation, dans des mobilisations, mais dans la perspective d'une victoire de la gauche à la présidentielle de 81. Hein, j'ai dit en 78, aux législatives, il y a eu un espoir que la gauche gagne, programme commun, la droite gagne de peu, l'horizon suivant, c'est 81, la présidentielle. Et c'est parce que moi je partage très largement la perspective de Vignat que moi j'ai étendu ma séquence d'analyse à 81. C'est-à-dire que effectivement, en 80, la perspective de cette élection présidentielle, la perspective d'une victoire de la gauche, va beaucoup focaliser les mouvements sociaux et pas simplement les stratégies syndicales à la fin des années 70. Il va y avoir une réorientation des stratégies militantes, des différents mouvements autour de cette échéance électorale. Et c'est pour ça que, mais ça je le développerai plus tard, je fais déborder ma séquence, et parce que j'envisage l'ensemble des mouvements sociaux, jusqu'à la victoire de Mitterrand. D'une certaine manière, pour anticiper un peu sur ce que je vais raconter plus tard, les 110 propositions du candidat Mitterrand à la présidentielle, c'est en grande partie un catalogue des revendications de bon nombre de mouvements sociaux des années 70. Que ce soit au niveau féministe, immigration, écologie, régionalisme, homosexualité, antimilitarisme, on va retrouver un certain nombre de revendications, pas toutes, hein, et elles seront pas forcément toutes satisfaites, ces revendications, mais le PS de Mitterrand va largement puiser dans les mouvements sociaux des années 60. Alors, j'ai parlé des bornes qui terminent, je dirais, la séquence que je veux envisager. J'ai pris comme allant de soi le début de la séquence, hein, la borne introductive, je dirais, donc mai 68, bah parce que tout le monde, ou presque, il y a unanimité parmi les sociologues ou les historiens, pour le coup, ou presque, hein, pour considérer mai 68 comme le point de départ de cette séquence de contestation sociale. Donc moi, je ne fais pas exception à la règle, et la période qui suit les événements de 68 peut, à bon droit, je pense, être désignée comme un temps de la contestation et comme celle des années 68, hein, c'est le titre d'un ouvrage collectif de Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Franck, Marie-Françoise Lévy et Michel Zancarini-Fournel, qui parle des années 68 pour désigner cette période. Mais il convient aussi d'expliciter un peu plus, contre l'évidence, hein, le choix de cette date d'ouverture. Alors, mai 68, c'est un mouvement fondateur, mais fondateur de quoi, hein ? Je dirais sans doute de ce qu'on peut appeler une humeur contestataire qui a disposé un certain nombre de ceux et celles qui ont vécu les événements de mai et juin à remettre en cause la marche d'une multiplicité de secteurs de la vie sociale. Et là aussi, ça me permettra de faire un peu la liaison avec ce que j'avais raconté l'année dernière et notamment dans le dernier cours. Hein, j'avais cité le travail de Boris Gobille qui envisage mai 68 comme ce qui serait transversal à mai 68, aux différents secteurs qui sont rentrés en crise en mai 68, hein, les syndicats, les partis, la famille, les églises, les équipes de foot, etc. Ben, ça serait une rupture des allégeances. Le fait qu'un certain nombre de rapports de domination qui allaient de soi auparavant ne vont plus de soi. Hein, et que, par exemple, entre médecins et malades, on va remettre en cause les rapports d'autorité du médecin. Hein, les malades vont dire, bon, mais moi, en tant que malade, j'ai aussi mon mot à dire dans le traitement qu'on veut me faire subir. Hein. Dans le couple, évidemment, les rapports asymétriques entre hommes et femmes sont contestés. Dans la famille, les rapports asymétriques entre parents et enfants, entre travail intellectuel et travail manuel, entre décideurs et exécutants, entre éducateurs et éduqués. Bon, tout un tas de secteurs vont... Tout d'un coup, parce qu'il y a eu ce moment un peu inouï de mai, vont remettre en cause des rapports sociaux inégalitaires qui auparavant allaient de soi. Ce qui à la fois unit les mouvements sociaux malgré leur caractère dispersé, hein, de ceux, les mouvements sociaux qui vont suivre. Alors là aussi, il ne faut pas non plus réifier les bornes temporelles. Un certain nombre de phénomènes dont on impute l'origine à mai 68 étaient déjà en gestation, voire en cours auparavant. Alors c'est le cas, je vais prendre deux exemples très contrastés. La combativité salariée qui a émergé en mai et juin 68, donc avec période de grève, elle était déjà en gestation auparavant, notamment, on prend un exemple régional, dans l'usine Rodiaceta qui s'était mise en grève en 67 et 68 déjà. Il y avait déjà avant 68 une combativité ouvrière très forte. Et puis au niveau de la question des mœurs, la libération sexuelle, elle n'est pas impulsée par mai 68. Alors, j'avais évoqué, je crois, l'année dernière, le fait que question de la sexualité n'était pas présente en tant que telle pendant mai 68. Et déjà, sur la question des mœurs, on constate avant mai 68 un certain nombre d'évolutions significatives, notamment la baisse de l'âge au premier rapport sexuel, l'augmentation de la sexualité hors mariage, y compris pour les femmes. Voilà, un certain nombre de processus dont on impute la responsabilité, qui vont s'accroître par la suite, dont on impute la naissance à mai 68, étaient déjà en gestation auparavant. Troisième point, c'est des éléments de contextualisation politique. Donc j'ai déjà commencé à donner des éléments de contextualisation, idéologique et économique. Je voudrais revenir un peu plus sur le plan politique, parce que ça va être important pour mon propos, et puis aussi parce que ça nous permet de retrouver nos héros là où on les avait laissés, à la fin de l'épisode précédent. L'épisode précédent, c'était la victoire écrasante des gaullistes aux élections législatives anticipées de juin 68. Et une opposition de gauche un peu chaos, parce qu'elle espérait tirer profit de la contestation qui s'était exprimée à la fois dans les universités et dans les entreprises pendant les mois de mai et juin. Bon, pour autant, le Parti communiste avait conservé sa position dominante sur la gauche. Bon, pendant l'été 68, De Gaulle se sépare de son premier ministre Pompidou, il le remplace par Couve de Murville. De Gaulle, semble-t-il, a eu l'impression que Pompidou était prêt à faire cavalier seul pendant mai 68, il commençait à s'en méfier, donc. Après mai 68, un certain nombre de réformes importantes sont initiées par le gouvernement, notamment une réforme de l'université qui est pilotée par Edgar Faure. Le régime gaulliste apparaît, semble-t-il, renforcé de la crise, mais De Gaulle annonce pour avril 69 un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation, des programmes qui ne font pas unanimité, y compris dans son propre camp, et une majorité de non sort des urnes, et vu que De Gaulle avait mis son mandat dans la balance, dès le score connu en faveur du non, De Gaulle démissionne. Ce qui fait des présidentielles anticipées, alors qui voit triompher la droite, puisque la gauche est éliminée dès le premier tour. Le représentant des socialistes, Gaston Defferre, fait 5%. Jacques Duclos, pour le Parti communiste, fait plus de 21%. Crivine, pour la Ligue communiste, fait 1%. Michel Rocard, pour le PSU, fait 3,6%. Mais les deux candidats de droite, Pompidou fait 44% et Alain Poher 23%, et au second tour Pompidou fait 58% sans problème. Alors Pompidou va prendre pour premier ministre un baron du gaullisme, un ancien résistant gaulliste puretin, qui est Jacques Chaban-Delmas, qui est quelqu'un de relativement ouvert, qui a un peu entendu le mai 68, qui va recruter des conseillers parmi des cathos progressistes, et notamment quelqu'un qui s'appelle Jacques Delors. C'est quelqu'un qui apparaît moderniste et réformateur, qui annonce un projet de nouvelle société. Hein. Alors, ça fait un peu slogan, mais ça se veut modernisateur, entendre les craintes et les revendications qui se sont exprimées en 68. C'est quelqu'un qui, à ce titre, bénéficie d'une forte popularité, au point que ça agace Pompidou, qui va le débarquer assez vite, en 72, et qui va le remplacer par Pierre Messmer. À noter que les premiers ministres changent, mais que depuis mai 68, c'est toujours le même ministre de l'Intérieur qui est aux commandes, qui s'appelle Raymond Marcellin, et qui, à l'égard des mouvements sociaux et de l'extrême gauche, a une attitude qu'on va dire fermée publiquement, ce qui passe par beaucoup de tabassage par les flics et toute une stratégie d'infiltration, de mise sur écoute. Pour l'anecdote, Raymond Marcellin sera obligé de démissionner en 1974 après que les journalistes du Canard Enchaîné aient découvert que des policiers étaient en train d'installer des micros dans leur salle de rédaction. Donc voilà, c'est une certaine ouverture gaulliste, mais quand même, on garde les fondamentaux. Alors, aussi, je parle de la droite, j'en profite pour parler de l'extrême droite. Alors, elle s'est largement délitée depuis la tentative en 1965 de fonder une force politique sur les nostalgiques ou les déçus de l'Algérie française. Alors, en 65, il y a eu un candidat d'extrême droite qui était Tixier Vignancourt, qui a fait 5% à la présidentielle. C'était le candidat de ceux qui refusaient l'Algérie indépendante, rassemblait aussi des nostalgiques de la collaboration. Mais bon, 5%, ça a été vécu comme un échec, et cette extrême droite s'est réorganisée surtout sous la forme de groupuscules violents, comme Occident, dont j'avais parlé, qui a été dissous en 68, qui a donné naissance à une nouvelle organisation qui s'appelle Ordre Nouveau, qui en 1972... va décider de se doter d'une façade électoraliste. Donc ils vont fonder un parti, mais qui n'est pas forcément destiné à durer longtemps, qui va s'appeler le Front National. Ils vont confier le pilotage de ce nouveau parti à l'ancien directeur de campagne de Tixier Vignancourt, qui est aussi un ancien député poujadiste, donc de la 4e République, un ancien officier de l'Algérie, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Alors lui, il se présente à la présidentielle de 74 et il fait 0,74% des voix. Alors que lui, il a cru au parti politique durable Front National, alors qu'un certain nombre de ses anciens camarades d'Ordre Nouveau vont dire « Bon, ça n'a pas marché le Front National, donc on va faire un autre... » C'était surtout une opération pour des législatives en 72. Ils vont dire « Non, on va pas... c'est un truc foireux. » Ils vont lancer une autre organisation qui va s'appeler le PFL, le Parti des Forces Nationalistes, qui en 74 soutiendra la candidature de Giscard d'Estaing et dont bon nombre d'animateurs se reconvertiront dans la droite classique au fil de la décennie. Or, Pompidou meurt en avril 74. Entre-temps, en 71... Mitterrand a réorganisé l'opposition de gauche non communiste en fondant le Parti socialiste au Congrès d'Épinay. Il en est le leader, grâce notamment à l'appui de l'aile gauche du CRS, c'est l'aile gauche marxiste du Parti socialiste, qui est animée par Chevènement. Va se rallier aussi au Parti socialiste une fraction du PSU animée par Michel Rocard, qui incarne davantage ce qu'on appelle la nouvelle gauche ou la seconde gauche. Mitterrand arrive à s'imposer en 1974 comme candidat unique de la gauche, je l'ai dit, mais bon, il est battu de peu par Giscard. Voilà, alors pour vous donner quelques scores, Mitterrand 43%, vous comptez intégrer qu'il représente aussi le PC et les radicaux de gauche. Giscard fait 32%, Chaban fait 15%, alors là aussi c'est important, Chaban Delmas, c'est le représentant, l'héritier légitime du gaullisme, mais la jeune génération gaulliste va le trahir. En premier lieu, Chirac, qui va appeler à voter Giscard. Ce qui explique l'échec de Chaban-Delmas et le fait que Giscard sera premier ministre de Giscard quand il sera une fois celui-ci élu. Première candidature écologiste, celle de René Dumont qui fait 1,3%. Première candidature aussi d'Arlette Laguiller, 2,3%. Alain Krivine, 0,37%. Et au second tour, c'est Giscard qui gagne de peu avec 50,8%. Alors, ce qui est aussi important de prendre en compte, c'est que, surtout pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'époque, Giscard s'est fait élire sur une image moderniste et dynamique. C'est le plus jeune président de la République de l'histoire. Et le début de sa politique va s'aligner sur cette image moderniste. Par exemple, la légalisation de l'avortement, le divorce par consentement mutuel, la prise en compte de la question des prisonniers, l'abaissement de la majorité à 18 ans. Il est d'une certaine manière le premier à inventer l'ouverture, ce sera largement reproduit par la suite, parce que il fait venir des personnalités classées à gauche dans son gouvernement, Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, Françoise Giroud, première secrétaire d'État à la condition féminine. Servan-Schreiber, je ne sais plus pourquoi, mais il ne va pas rester longtemps. Bon. Mais ce sont des personnalités classées à gauche. Alors, je voudrais m'arrêter sur... Je vais m'arrêter là, parce que laisser quand même de la place pour les questions. Sur cette idée du modernisme, du dynamisme. C'est quelque chose qui va... c'est une idéologie, on va dire, qui est extrêmement forte dans les couches dirigeantes du pays au début des années 70. C'est-à-dire qu'après 68, il y a la prise en compte par la bourgeoisie, née par ses secteurs les plus dotés en capital scolaire, qu'il faut intégrer la contestation de 68, qu'il faut s'ouvrir sur l'avenir et rompre avec certaines valeurs portées par la vieille bourgeoisie conservatrice. Et je veux m'y arrêter un peu parce qu'il y a eu la réédition il y a quelques mois en bouquin d'un vieil article de Pierre Bourdieu et Luc Voltanski qui s'appelle « La production de l'idéologie dominante ». Ça a été réédité par les éditions Démopolis cette année, enfin 2008. C'est un vieil article de Bourdieu et Boltanski qui a été publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1976 où ils décortiquent et ils analysent, alors c'est très drôle, c'est sous la forme d'un dictionnaire, tous les lieux communs, tous les poncifs du discours moderniste de cette époque-là. Et comment ça fonctionne, comment c'est porté par Giscard, par Servan-Schreiber, par... tout un tas d'intellectuels importants, très médiatiques à l'époque, et comment c'est un discours en fait très simple, qui est fondé sur un certain nombre de couples d'opposition, alors le passé contre l'avenir, l'ouvert contre le fermé, le changement contre le bloqué, le statique contre le dynamique, le mobile contre l'immobile, le petit contre le grand, le local contre l'international, avec une variante, le national contre l'européen ou l'américain. Donc on mise aussi sur les nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, le management, il faut être moderne, c'est une exigence. Et qui est un discours extrêmement efficace, selon Bourdieu et Boltanski, parce que c'est un discours qui a le pouvoir de se rendre vrai. C'est pas un discours qui est nécessairement vrai, ce que racontent tous ces intellectuels ou hommes politiques ou intellectuels engagés dans la politique ou hommes politiques qui ont des prétentions intellectuelles. C'est souvent des platitudes, des lieux communs. C'est pas basé sur une observation solide de la réalité sociale ou économique. Mais ça a les moyens de se produire comme vrai. C'est-à-dire que ça fonctionne sur le mode de la prophétie autoréalisante, qui consiste à dire les mutations sont inévitables, donc il faut les provoquer. Il y a de l'inéluctable, donc vu qu'on ne peut rien faire contre, il faut l'accompagner. Les caisses de retraite vont rentrer en crise, donc il faut les transformer nos systèmes de retraite. Vous voyez comment ce discours, alors l'idée modernisatrice, machin, elle apparaît moins, mais ce discours de l'inéluctable qu'il faut provoquer, c'est toujours celui qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que le bouquin de Bourdieu et Boltanski, je vous recommande sa lecture, c'est à la fois c'est des gens qui sont morts depuis longtemps, comme Giscard d'Estaing, mais qui est toujours d'actualité. C'est celui qu'on nous resserre, hein, que vous avez entendu au moment du réforme, du référendum, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Je comptais aussi parler de l'extrême gauche, mais ça, on sera amené de toute façon à en reparler assez largement dans la suite du cours. Et puis j'ai déjà été trop bavard. Donc, la parole est à vous. Merci.